Nous en sommes à la troisième journée intensive de l'automne 2022 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter quelques extraits d'un texte du maître japonais Dogen, Instruction au cuisinier Zen. Ce texte a été écrit en 1237. Et les préoccupations de Maître Dogen en l'écrivant étaient d'ordre pratique. Former les cuisiniers des monastères et les guider sur la voie, pour qu'à leur tour ils transmettent le zen correctement aux générations futures. Mais avant de passer au texte lui-même, commençons par dire quelques mots au sujet de Maître Dogen. Né le 2 janvier 1200, il était un enfant issu de la haute noblesse japonaise. Son père, qui était dignitaire, mourut alors qu'il n'était âgé que de 2 ans. Il vécut son enfance dans un milieu privilégié et il montra très tôt un goût prononcé pour les études. Sa famille le destinait évidemment à une carrière dans l'administration publique. Mais la mort de sa mère lorsqu'il avait 7 ans orienta son destin dans une toute autre direction. On dit qu'il aurait alors ressenti pour la première fois ce qui a été à l'origine de sa vocation, l'impermanence de toute chose et l'instabilité fondamentale du monde. C'est lui qui écrivit plus tard, « Pendant le peu de temps que dure votre vie fragile comme la rosée, pensez à la voix du Bouddha. » et à rien d'autre. À l'âge de 12 ans, il demanda à devenir moine, et il fut ordonné 1 an plus tard. Peu de temps après, il découvrit la question qui allait devenir pour lui un koan naturel. S'il est vrai que la nature de Bouddha est présente en chacun de nous, pourquoi devons-nous tant souffrir pour l'atteindre? Il passa les 3 années suivantes à voyager à travers le Japon et à consulter des maîtres dans l'espoir d'apaiser son esprit. Mais il revint les mains vides. Il poursuivit néanmoins sa pratique et 6 ans plus tard, à l'âge de 23 ans, il entreprit un voyage vers la Chine afin de trouver réponse à ses questions. Ses premiers contacts avec les monastères zen chinois furent, semble-t-il, une grande déception. Obstiné et résolu, il continua tout de même ses recherches de monastère en monastère pendant les 2 années suivantes, mais en vain. Un jour, il se sentit soudain découragé. Il perdait son temps. Et jamais il ne trouverait en Chine un maître digne de ce nom. Il écrivit plus tard, et je cite, « Bien qu'il y ait en Chine un grand nombre de gens qui prétendent être des descendants des Bouddhas et des patriarches, il y en a peu qui étudient la vérité, et peu par conséquent qui enseignent la vérité. Ainsi, ce sont des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la grande voie des Bouddhas et des patriarches, qui deviennent les maîtres des moines et des nonnes. » Fin de citation. Il se résigna à rentrer au Japon. Le hasard voulut cependant qu'il en soit autrement. Alors qu'il avait regagné le bateau qui devait le ramener au Japon, un moine se présenta. Dogen raconte alors l'histoire suivante. Le but de sa visite était d'acheter des champignons directement au marchand japonais qui était à bord. Je l'invitai à prendre le thé et lui demandai d'où il venait. Il me dit qu'il était cuisinier au monastère du mont Haiyuwang. J'ai quitté mon village il y a 40 ans et j'en ai maintenant 60. Pendant toutes ces années, j'ai voyagé d'un monastère à l'autre, sans me fixer nulle part. jusqu'à l'an dernier, où j'ai rencontré le supérieur du temple du mont Ayuwang. J'étais venu lui rendre visite et je suis resté auprès de lui, réalisant que jusqu'alors j'avais gaspillé mon temps. À la fin de la retraite d'été, j'ai été chargé de la fonction de cuisinier. Et il y a demain une célébration au temple. Je me suis dit que je n'avais rien de bon à offrir pour le repas. J'ai bien pensé à faire une soupe de nouilles, mais je n'avais pas de champignons. C'est pourquoi je suis venu exprès ici pour en acheter. Comme ça, je pourrais faire une offrande à tous les moines. Quand avez-vous quitté le monastère? Oh, ce midi après le repas. À quelle distance d'ici est le mont Ayuwang? 15-20 kilomètres. Quand devez-vous repartir? Dès que j'aurai acheté les champignons. Notre rencontre d'aujourd'hui sur ce bateau me semble de bon augure. Je vous en prie, permettez-moi de vous inviter à passer la nuit à bord. Oh non, je dois rentrer au monastère pour préparer le repas de demain. Si je ne surveille pas moi-même la cuisine, ça ne sera pas bon. Dans ce grand monastère, il y a sûrement quelqu'un capable de faire la cuisine. Ils peuvent tout de même se passer d'un cuisinier sans subir de désagréments. Cette fonction a été confiée au vieil homme que je suis. Disons que c'est ma pratique de vieil homme. Comment pourrais-je la déléguer à quelqu'un d'autre? Mais votre âge mérite considération. Pourquoi ne vous consacrez-vous pas seulement à la pratique de Zazen ou à l'étude des propos des anciens maîtres, au lieu de vous donner tant de peine comme cuisinier à ne faire que des travaux manuels? Quel profit en tirez-vous? Le cuisinier éclata de rire et me dit, « Mon bon ami qui venait de l'étranger, vous n'avez pas encore compris ce que signifie la pratique de la foi. » « Qu'est-ce que la pratique de la foi ?» lui demandai-je. Et il me répondit, « Il n'y a pas de trésor caché dans l'univers. » Sur ces mots, il se leva et partit en grande hâte vers le monastère. Quelle belle réponse! Qu'est-ce que la pratique? Il n'y a pas de trésor caché dans l'univers. Nous venons souvent à la pratique avec l'espoir d'y trouver un trésor caché, une vérité peut-être, ou encore une solution au problème qui nous assaille. Une certaine paix intérieure, le grand éveil dont parlent certains livres zen, ou quoi d'autre encore. La liste est presque sans fin, n'est-ce pas? Mais le moine dit simplement, « Il n'y a pas de trésor caché dans l'univers. » Que veut-il dire? Nous met-il en garde en nous disant de ne pas gaspiller un temps précieux dans notre pratique en cherchant vainement des trésors cachés qui n'existent pas? Est-ce que c'est cela? Ou nous dit-il plutôt que tous les trésors de l'univers sont déjà là sous nos yeux, que tout nous est déjà donné et que rien n'est caché? Qu'est-ce que la pratique? Il n'y a pas de trésors cachés dans l'univers. Et vous, comment l'entendez-vous? Après cette rencontre, Maître Dogen renonça à quitter la Chine et poursuivit son voyage. Il rencontra éventuellement le maître Zhu Xing. Dans l'instant, Dogen sut qu'il avait enfin trouvé celui qu'il cherchait. L'enseignement de ce dernier était essentiellement fondé sur la pratique soutenue de Zazen. Et c'est sur cet enseignement que Dogen régla sa conduite. Il prolongea son séjour au monastère de Zhu Xing jusqu'à l'automne 1227. Il connut là un éveil profond, puis revint au Japon avec l'espoir d'y établir le zen authentique qu'il avait découvert auprès de son maître. ce furent les débuts du Zen Soto au Japon. Dogen en vint avec le temps à être considéré comme l'un des plus grands maîtres du Zen japonais. Il a légué à tous ceux et celles qui suivent la voie du Zen une œuvre littéraire considérable. Et il a été le premier maître à édifier au Japon des monastères entièrement consacrés à la pratique du Zen. Et comme il l'écrivit plus tard, jamais il n'oublia la leçon apprise lors de sa rencontre avec le vieux moine cuisinier sur le bateau. Le 28 août 1253, il fit ses adieux à tous ses disciples avant de mourir. J'aimerais maintenant lire et commenter quelques passages du livre de Maître Dogen, Instructions au cuisinier zen. Dans ce livre, Maître Dogen s'adresse évidemment au cuisinier du monastère, lui indiquant comment préparer et servir adéquatement les repas pour la communauté des moines. Mais il nous indique aussi comment préparer et servir ce que l'on appelle dans le zen le repas suprême, c'est-à-dire notre propre vie, qui est à la fois le plus grand don que nous ayons reçu et la plus grande offrande que nous puissions préparer. Voici ce que dit Maître Dogen, et je cite. « Quand vous lavez le riz, faites-le de vos propres mains, dans l'intimité de votre propre regard, avec diligence, et sans que votre attention ne se relâche un seul instant. Prenez soin d'en retirer le moindre grain de sable, et ne perdez pas un seul grain de riz. Soyez pleinement attentif à votre travail lorsque vous préparez le repas, et supervisez-en tous les aspects vous-même, afin que tout soit naturellement harmonieux. Nettoyez tous les ustensiles en les manipulant délicatement et avec soin. Triez les baguettes, les louches et les autres instruments et rangez ensemble ce qui va ensemble. Soyez attentionnés envers les choses. Ne les jetez pas négligemment. Quand vous faites la cuisine, ne regardez pas les choses ordinaires d'un regard ordinaire, avec des pensées et des sentiments ordinaires. Avec cette feuille de légumes que vous tournez entre vos doigts, construisez une splendide demeure pour le Bouddha et faites que la moindre de vos activités proclame son enseignement. Si vous préparez un pauvre bouillon d'herbes sauvages, qu'il ne vous inspire aucun sentiment de dégoût ou de mépris, et si vous élaborez un riche potage crémeux, que votre cœur ne bondisse pas de joie. Le lien que nous créons avec le Bouddha n'est pas fonction de la grandeur de l'offrande, mais de l'authenticité de notre cœur. Notre pratique veut que l'on soit vrai dans tous les actes de la vie. Ainsi, lorsque vous cueillez ou préparez de vulgaires plantes sauvages, faites-le sincèrement, de tout votre cœur, et traitez-les avec autant d'égard que les produits les plus rares. La feuille de légumes que vous tenez dans votre main devient alors le corps du Bouddha, et ce corps que vous tenez avec respect redevient simple légume. Il s'agit là d'un pouvoir que la raison ne peut saisir. L'exercice de ce merveilleux pouvoir de transformation est le propre de l'activité de Bouddha. Dans notre vie quotidienne, ce pouvoir nous aide à clarifier et à mettre en ordre nos activités. Et tous les êtres vivants en profitent. Fin de citation. Ce texte de Maître Dogen nous invite à ne perdre aucun instant et à ne rien négliger dans notre vie. Quand vous lavez le riz, faites-le de vos propres mains, dans l'intimité de votre propre regard, avec diligence et sans que votre attention ne se relâche un seul instant. Les instants de notre vie sont comme des grains de riz. L'on peut s'en nourrir, mais aussi les perdre de vue si facilement, tenant pour acquis qu'il y en aura toujours d'autres. L'on perd si facilement de vue que chaque instant qui passe est notre vie elle-même, et qu'en dehors de chaque instant, aucune autre vie ne nous est donnée. Nous ne sommes pas quelque part au dehors regardant le temps passer. Nous sommes le temps qui passe. Prenez soin d'en retirer le moindre grain de sable et ne perdez pas un seul grain de riz. Lorsque le cuisinier se montre négligent, relâche son attention et perd des grains de riz en retirant le sable, il fait exactement cela. Il laisse sa propre vie s'écouler sans la voir, comme si elle était invisible et ne comptait pas. Il porte son attention sur autre chose, sur ce qu'il invente dans son propre esprit peut-être. Il se perd dans ses propres rêveries et ne voit plus les instants de sa propre vie lui glisser entre les doigts. Il en va de même pour nous parfois. Que ce soit en zazen ou ailleurs dans notre vie, nous manquons souvent d'attention envers nous-mêmes et les choses de notre vie. Et c'est pourquoi Maître Dogen nous invite et exhorte aussi le cuisinier zen à être attentionné envers les choses, à ne pas les jeter négligemment. Il nous rappelle avec amitié de nous montrer attentifs à tout ce que nous faisons, à mettre de l'ordre dans le moindre de nos gestes. Avec cette feuille de légumes que vous tournez entre vos doigts, construisez une splendide demeure pour le Bouddha et faites que la moindre de vos activités proclame son enseignement. Et comme il le dit encore, et je cite, « Le lien que nous créons avec le Bouddha n'est pas fonction de la grandeur de l'offrande, mais de l'authenticité de notre cœur. Notre pratique veut que l'on soit vrai dans tous les actes de la vie. Donnez-vous de tout cœur à votre pratique. Se donner de tout cœur à sa pratique, cela signifie ne rien refuser ou rejeter de tout ce qui se manifeste en nous et aussi ne rien en retenir. Ce qui se manifeste en nous, voilà les ingrédients avec lesquels nous composons le repas qu'est notre vie. Ce repas peut parfois nous sembler loin d'être parfait, mais nous l'offrons humblement à tous les êtres. Et Maître Dogen poursuit en disant, « Ainsi, lorsque vous cueillez ou préparez de vulgaires plantes sauvages, faites-le sincèrement, de tout votre cœur, et traitez-les avec autant d'égard que les produits les plus rares. » Yasutani Roshi, que M. Lo considérait comme son premier véritable maître dans le zen, disait parfois qu'une tasse, même fêlée, était parfaite. Il ne lui manque absolument rien. De la même manière, une vulgaire plante sauvage que l'on cueille et prépare en cuisine est parfaite telle qu'elle est. Que pourrait-il donc lui manquer? Il en va de même pour une plante plus rare. Elle n'est ni égale, supérieure ou inférieure à une autre, seulement plus rare. De la même manière, quoi que vous trouviez en vous-même, accueillez-le sincèrement. Ne le repoussez pas, n'intervenez pas. Chaque instant de votre vie est un ingrédient parfait. Il n'y manque absolument rien. Traitez tous les ingrédients de votre vie avec autant d'égard. Puis avec simplicité, offrez le repas de votre vie à tous les êtres. Si vous le faites, cet instant de votre vie que vous traitez avec respect devient le corps du Bouddha. Et ce corps que vous traitez avec respect redevient ce simple instant de votre vie.